et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, pour ce dimanche, pour toute cette semaine, ce que l'Église nous donne pour nourrir notre réflexion est une réaction assez dure et assez définitive, assez radicale, où les trois textes que nous avons entendus, et principalement celui d'Amos, qui se termine sur une malédiction, la malédiction des vautrés, qui seront déportés, et l'Évangile, où notre Seigneur raconte une parabole qui n'est pas moins dure et définitive, alors il nous faut essayer de l'écouter, malgré sa dureté, pour savoir, comme toujours, ce qui nous est dit dans l'Écriture n'est pas fait pour nous faire honte, c'est fait pour nous sauver, c'est-à-dire nous élever jusqu'à Dieu. Car pour nous faire honte, il nous suffit de nous-mêmes. L'Écriture et la tradition de l'Église n'ont d'autre but que le salut de nos âmes. Voyons d'abord cette histoire de richesse, de ce riche qui n'a même pas de nom ici. Seul le pauvre a un nom, il s'appelle Lazare. C'est déjà une leçon, un paradoxe. Et voyons cette richesse et ce monde, la vie de ce monde, et ensuite examinons l'attitude de cette personne riche, puisque c'est lui le protagoniste de la parabole racontée. Tout d'abord, la richesse et la vie des hommes. La richesse, elle est de toute nature. Bien sûr, on peut penser immédiatement, puisqu'il fait des mets succulents et vêtus de lin et de pourpre, on peut penser à la richesse matérielle. Évidemment, c'est ce qui nous saute aux yeux, et nous avons raison d'y penser. L'argent et tout ce que peut nous procurer l'argent, les diverses choses de ce monde, les voitures, les immeubles, ce qui se mange, ce qui se porte, ce qui se consomme d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas étrangers au luxe de ce monde, il n'est que de sortir de cette église pour nous en rendre compte. Mais il ne faut pas se limiter à cette richesse-là. Dans la tradition de l'Église, nous avons toujours englobé toutes sortes de richesses. Les richesses intellectuelles, qui font que, eh bien, on en sait plus que les autres, que l'on a la capacité de faire des choses que d'autres ne pourront pas faire. Des richesses mondaines, qui font que nous connaissons des gens qui nous donneront d'accéder à des entreprises que d'autres ne pourront entreprendre, parce qu'ils ne les connaîtront pas. Enfin même, il faut aller jusqu'aux richesses spirituelles, expériences de Dieu, qui sont objectivement des richesses et même les plus précieuses en ce monde que nous ayons, c'est-à-dire la vision intérieure, la connaissance de Dieu, jusqu'à l'extase. Voilà, il faut englober toutes ces richesses et nous demander, sont-elles mauvaises ? Parce que, primo primi, il semblerait que c'est ce qui a perdu cette personne. Alors il vous faut sortir de cette église immédiatement en laissant ici vos sacs, vos habits, repartir avec le minimum, si vous prenez à la lettre cette injonction. Je ne crois pas qu'il s'agisse de ça. Je ne crois pas qu'il s'agisse de ça, car nous avons une vision positive de ce monde. Nous avons une vision positive, nous ne croyons pas que seuls ceux qui vivront nus dans la rue seront sauvés. Ou alors il faut nous y empresser. Je vous le dis parce que c'est la conception, par exemple, en Inde, des sannyasides qui, après avoir rempli leur vie, bien, se débarrassent de tout, y compris de leurs vêtements, vont nus par les rues, abandonnent femmes, enfants, parce qu'ils sont déjà élevés et pour leurs enfants, et qu'ils abandonnent leurs femmes à leur famille, et qui vont sans rien. C'est un beau mouvement spirituel, mais qui suppose que la richesse est mauvaise en elle-même. Or, nous supposons le contraire. Nous supposons, et je laisse la parole à Saint Ignace de Loyola, une fois n'est pas et encore coutume, eh bien, il dit au point 23 des exercices, nous sommes faits pour louer, révérer, servir Dieu notre Seigneur et par là sauver notre âme, et toutes les choses sur la face de la terre ont été créées pour l'homme, pour l'aider à atteindre son but qui est Dieu. C'est dire que nous avons une vision extrêmement positive et de l'argent, et des études, et des relations, et des expériences de Dieu. Tout ça nous est donné pour que nous réussissions notre vie et que nous atteignions le bonheur promis, qui est de voir Dieu. Vision ô combien optimiste du monde, qui ne fait pas fi des dangers, qui sont principalement de confondre les moyens avec le but, c'est-à-dire d'oublier que toutes ces choses sur la face de la terre, toutes ces richesses nous ont été données pour être ordonnées en vue de Dieu, pour que j'ordonne ma vie en vue de Dieu, et de penser qu'elles sont une fin en elles-mêmes, qu'il me faut amasser de l'argent, amasser de la connaissance, amasser des relations pour me débrouiller en ce monde. Voici l'erreur fondamentale que fait ce malheureux riche qui confond l'un avec l'autre. Alors, il a oublié, ce faisant, le prix de la vie. Qu'est-ce que le prix d'une vie ? Bien sûr, si vous avez confondu les moyens et la fin, si vous avez tenu pour un aboutissement de la vie, la richesse, la connaissance, l'accumulation spirituelle, eh bien, il est tout normal de penser que la vie d'un homme vaut ce que pèse son compte en banque. Quelle erreur ! Les coffres-forts ne suivant pas les corbillards, un jour ou l'autre, vous vous rendrez compte que c'est faux. Vous pouvez penser que la vie d'un homme vaut ses nombreuses années d'études, son élévation intellectuelle dans ce monde. Quelle erreur ! Les plus grands intellectuels perdent la tête et peuvent être frappés d'amnésie et de toute façon abandonner toute recherche. Vous pouvez même croire que la richesse d'un homme vaut ce qu'il aura connu de Dieu. Alors vous ne parlerez qu'à quelques chartreux, ce qui est difficile puisqu'ils ne parlent pas au monde. Mais vous espérerez cela. Quelle erreur, en fréquentant quelques grands spirituels, si vous avez pu en croiser de ci, de là, vous vous apercevrez que non seulement le chemin est rude, mais il est fait d'abandon, et que la véritable richesse, souvent, de ces grands spirituels est de savoir qu'ils ne sont rien par rapport à Dieu et qu'ils en attendent tout. Non, la vie d'un homme ne se réduit pas à l'utilité qu'il a en ce monde ou à un prix. J'avais un souvenir très vif, j'étais adolescent, je ne sais plus exactement à quel âge, d'un homme que j'admirais beaucoup pour son entregent, pour son entreprise. Il dirigeait plusieurs entreprises, il me semblait avoir beaucoup réussi en ce monde et je l'admirais beaucoup. Et il me dit un jour, de toute façon, tout le monde a un prix. Il voulait dire un prix d'argent. Et cela m'avait bouleversé profondément, persuadé qu'il faisait fausse route. Évidemment, 40 ans plus tard, l'expérience aidant, je me rends compte que cet homme s'était profondément fourvoyé, abandonné de tous, n'ayant pu fonder de famille, n'ayant eu d'enfants, n'ayant eu de véritables amis, parce qu'il avait cru que le prix des hommes était fondé sur l'argent ou sur l'utilité qu'il leur procurait. Ne vous y trompez pas, c'est le débat profond de notre société qui, ne croyant plus en Dieu, a décidé de chercher le prix de la vie et le met à la hauteur de ce qu'on peut acheter, des gens que l'on peut acheter, des gens que l'on peut produire, l'utilité de ce monde, si demain nous ne sommes plus utiles, si nous ne produisons pas, si je ne suis plus en mesure de réaliser mon travail à l'église Saint-Roch, eh bien, il a fort à parier que l'archevêque me fera piquer. Eh oui, c'est ça cette logique-là qui est dénoncée ici dans l'Évangile. Je ne crois pas qu'il le fera. Parce que je crois justement que nous sommes profondément attachés à la valeur de la vie qui vaut parce qu'elle est un don de Dieu, parce qu'elle est inaliénable, inadmissible, elle vaut en elle-même. Elle vaut pour ce qu'elle est, pour le don qui nous est fait. Alors, voyons vite fait le mouvement de ces riches, parce qu'il en a deux ici dans l'Évangile. Il en a un mauvais et un bon. Son mauvais mouvement, ce qui lui est reproché, ce n'est pas d'être riche. À aucun moment il nous est dit que il est mauvais de faire un bon repas ou d'être vêtu de lin. Ce qui est mauvais, ce qui lui est reproché, c'est de n'avoir pas porté attention à Lazare, qui est à sa porte. Il ne s'agit pas d'un pauvre situé à l'autre bout du monde. Il s'agit de quelqu'un qui est couché devant chez lui et dont les chiens lèchent les plaies. Dérision, évidemment, de dire cela dans la paroisse Saint-Roch. Saint-Roch qui fut délaissé de tout le monde parce que personne ne voulait le soigner, portant évidemment à l'époque une lèpre, en tout cas une maladie qu'on ne savait pas guérir, et dont seulement un chien s'est occupé en lui léchant les plaies. L'histoire se répète, se reproduit. Saint-Roch est bien une image de ce pauvre dont personne n'a su prendre soin. Alors me direz-vous, nous ne pouvons pas être de cette hauteur. Je m'interroge beaucoup en regardant les personnes âgées avec leurs chiens, en regardant que on se dit que maintenant dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, il est bon d'introduire des animaux pour distraire, pour s'occuper, pour lécher les plaies des gens, leur solitude et leur détresse. Pourquoi pas ? Je ne suis pas contre. Je suis un peu le patron de ceux qui veulent des chiens. Enfin, Saint-Roch est le patron, je suis l'intendant de son église. Mais peut-être aussi que c'est parce que nous délaissons profondément dans nos familles ceux qui ont des plaies, la plaie de la solitude, du désespoir, et que nous pourrions visiter plus souvent. Car évidemment, il n'est même pas dit ici qu'il a volontairement délaissé. Il est juste dit qu'il n'a pas fait attention. Alors bien sûr, vous pouvez porter attention. En sortant de cette église, il y a des gens, il y a une dame qui couche là derrière. Je sais que l'une d'entre vous l'a rencontrée l'autre jour, elle me l'a dit. Et il y a des gens qui sont assis aux portes de cette église. Mais bien encore plus que ça, il y a sûrement autour de nous des gens à qui nous ne parlons pas simplement parce que nous ne voulons pas y faire attention, peut-être même parce que nous les méprisons. C'est le mépris de Lazare, c'est le mépris, pardon, de ce riche pour ce pauvre Lazare qui n'est pas admissible, car il a été placé à la porte de cet homme justement pour sauver son âme. Justement, il était là pour lui rappeler le prix de la vie, le prix ineffable de toute vie, et lui donner l'occasion incroyable de faire le bien. Il l'a délaissé. C'est un mauvais mouvement qui n'est pas le mouvement d'un instant, c'est le mouvement de toute sa vie. Alors le Seigneur nous avertit par parabole que le fruit de son travail sera son propre travail, c'est-à-dire que sa vie ne vaudra que son argent, et comme son argent n'existera plus, lui-même sera maudit et n'existera plus. Alors pourtant, on pourrait être choqué, et je pense que la parabole fait exprès, il va avoir un bon mouvement. Il va dire, mais pour moi c'est trop tard. Envoie Lazare prévenir mes frères qu'ils puissent se sauver et ne pas venir dans ce lieu de torture. Ça, c'est un bon mouvement. Mais voilà, dit Abraham à travers cette parabole, et fait parler Abraham, il lui dit, c'est trop tard. Il n'y a plus de temps dans l'éternité. Les choses ont été réalisées. C'est maintenant qu'il nous faut nous attacher à la loi et aux prophètes. L'allusion très fine de notre Seigneur de quelqu'un qui pourrait bien ressusciter des morts et qui ne les convertirait pas pour autant, est touchante. Nous sommes venus ici ce soir à cette messe pour nous mettre au chevet du Christ qui passe, car nous sommes sûrs que Dieu est passé là. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de l'humanité, rempli de lui ici dans cette Eucharistie. C'est déjà dedans que nous allons trouver le chemin de l'humanité, le chemin de celui à qui je n'ai jamais parlé, peut-être le chemin de celui que je méprise, peut-être parmi vous. Lazare est-il assis ? Il est peut-être la cause de ma damnation éternelle. Voilà la gravité des textes d'aujourd'hui. Je finirai sur une note plus gaie, c'est que justement, nous sommes tous là, et que c'est l'occasion qui nous est donnée pour porter attention au-delà des relations mondaines et polies des gens bien élevés, de pouvoir porter une attention charitable et aimante, parce que nous voulons, avec Lazare, vivre de Dieu, vivre du bien, vivre heureux. Ainsi soit-il.